Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie et aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la mère de quatre reines, Béatrice de Savoie. Belle, intelligente et douce, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette noble dame qui naquit en 1198 près de Chambéry. Son père, Thomas Ier, troisième à porter le titre de comte de Savoie, la marie en 1219 à Raymond Béranger IV, comte de Provence. La jeune femme quitte donc sa terre natale pour Aix, où elle devient bientôt le centre d'une cour élégante, raffinée, s'attirant de petites jalousies et une foule d'admirateurs. Amoureuse des lettres et des arts, dotée d'une ouverture d'esprit remarquable pour son époque, elle parle avec aisance et clarté, tout en maîtrisant le latin. N'hésitant pas à prendre la plume, elle protège de son mieux les artistes qui lui dédient en retour des chansons, des poèmes. Avec son époux, elle organise des réceptions fastueuses, où se pressent les seigneurs et les dames de toute la Provence. Les troubadours rivalisent de zèle, de talent, et les banquets se terminent habituellement par des danses. Dehors ont lieu des tournois de chevaliers que préside depuis sa loge la comtesse. C'est elle qui remet la rose au vainqueur. En été, le couple comtal réside au château de Saint-Mesmes, près de Fort-Calquier, bourgade où naissent leurs quatre filles au destin singulier. Marguerite, l'aînée, épouse à Sens en 1234, à l'âge de 14 ans, le roi de France Louis IX, qui vient d'en avoir 19. Le comte de Provence doit cette alliance à la diplomatie de son ministre, Romée de Villeneuve. Courageuse, Marguerite accompagne le futur Saint-Louis lors de sa première croisade en Terre Sainte et s'embarque avec lui à Aigues-Mortes. Malgré une existence bien remplie et de multiples maternités, elle entretient une correspondance régulière avec sa sœur cadette, laquelle de son côté épouse en 1236 Henri III, roi d'Angleterre, au cours d'une cérémonie qui se tient dans la cathédrale de Canterbury. Puis, elle est couronnée reine quelques jours plus tard en l'abbaye de Westminster. Active et pieuse, Éléonore fait venir près d'elle, outre-Manche, une foule d'amis savoyards, qui s'intègre d'ailleurs non sans mal à l'aristocratie anglaise. D'abord promise au comte de Toulouse, la troisième fille de Béatrice de Savoie, Sancy ou Sanchi, devient en 1243 sous l'impulsion d'Éléonore l'épouse du frère d'Henri III, Richard de Cornouailles. Célébré à Aix, ce mariage est l'occasion de réjouissances solennelles après la guerre de Saintonge, qui a vu s'affronter les troupes du roi Louis IX de France et celles d'Henri III d'Angleterre, épaulé par Richard de Cornouailles, qui sera élu roi des Romains en 1257. Mort subitement à Aix le 18 août 1245, le comte de Provence ne verra donc pas sa petite dernière, Béatrice, sa gente poulette et fille chérie, prendre pour époux l'année suivante Charles Ier d'Anjou, frère de Louis IX. Sa mère, Béatrice de Savoie, comtesse douairière et le conseil de régence dirigé par l'habile Romée de Villeneuve, souhaitant rapprocher encore davantage le comté de Provence avec le royaume de France, obtiennent sans difficulté l'accord du pape Innocent IV qui bénit cette alliance à Lyon. Par ce mariage, Charles devient donc lui-même comte de Provence et de Fort-Calquier, mais très vite un profond sentiment anti-français se développe dans les villes et dans les campagnes alentour. Après 3 mois de troubles, les nouveaux mariés quittent Aix pour Paris. Dans le même temps, les relations entre le gendre et sa belle-mère se dégradent. Celle-ci interprétant à sa façon le testament de feu son mari. Sous les auspices du roi de France, son autre gendre, un arrangement financier provisoire est conclu. Mais les désaccords entre ces deux fortes personnalités sont plus marqués qu'il n'y paraît. Approchant de la cinquantaine, Béatrice de Savoie n'entend rien lâcher à ce jeune ambitieux. Pourtant, une sentence arbitrale de l'évêque oblige à quitter le palais d'Aix. Dans un premier temps, elle refuse tout net, et sachant manier la plume, adresse à Charles d'Anjou des écrits incendiaires. Las de ces querelles et voulant rétablir une bonne fois pour toutes la paix au sein de la famille, Louis IX intervient de nouveau en 1256. Son frère paiera à la comtesse 6000 livres tournois et devra s'abstenir d'offenses et d'injustices à son égard. Mais, chassé le naturel, il revient au galop. Et Charles continue de chercher noise à sa belle-mère, qui s'éloigne de la terre de Provence vers 1250 pour se rendre en Angleterre auprès d'Éléonore, sa fille préférée. Elle passe ainsi quelques mois à Londres, puis malgré la fatigue d'un long voyage, rentre au pays et retrouve les montagnes de son enfance. Ami du pape Innocent IV jusqu'à la mort de ce dernier en 1254, soucieuse de son salut, elle se tourne de plus en plus vers Dieu, récite quantité de prières, assiste aux offices religieux aussi souvent que possible. Sa sollicitude envers les pauvres lui vaut le surnom de « Bonne Dame des Échelles ». En 1260, avec la permission donnée par son frère Pierre II de Savoie, le château des Échelles qu'elle a reçu en apanage fait l'objet d'une donation aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et établissent une commanderie. Béatrice de Savoie décède en décembre 1267, la même année que sa Benjamine, qui ne fut reine de Naples et de Sicile qu'un an. Dans son testament, elle lègue la plupart de ses biens aux ordres religieux, aux hôpitaux pour les indigents. Dans la petite chapelle du château des Échelles, la sépulture de la mère de quatre reines est détruite en 1793 pendant la Révolution, mais on parvient à sauver son crâne, lequel repose dans l'abbaye de Hautecombe, nécropole de la maison de Savoie. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout à une prochaine fois.